19h-20h, Cash sur table sur Arabelle.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission Cash sur table consacrée bien évidemment à l'actualité immédiate, bien évidemment à la formation du nouveau gouvernement et de ses priorités. Un gouvernement à droite, très à droite selon certains, chômage limité à 2 ans, indexation des salaires en révision, les réformes du marché du travail, fiscalité, pensions et bien d'autres. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Bernard Clerfailly, ministre bruxellois démissionnaire des filles. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous aussi Louis de Clipel, député MR au Parlement bruxellois. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Xavier Benani, conseillère communale à Anderlecht. Bonsoir.
Bonsoir et député régional.
Également. Et député régional, voilà, pour être précis. Alors, le cap est donné par la future équipe emmenée par Bart De Wever. C'est, on ne peut plus clair, la pilule sera, dit-on, difficile à avaler, mais nécessaire. On commence avec vous, Madame Benani.
Oui, effectivement, dire que la Belgique a vécu au-dessus de ses moyens pendant de nombreuses années, ce serait, c'est pas un secret de polichinelle. Nous avons eu tendance à extrapoler certaines politiques. Et effectivement, nous allons devoir faire des économies structurelles. Parce qu'aujourd'hui, notre budget, c'est dire, c'est une parabole, mais le budget du Portugal et le budget de la Grèce sont quasi meilleurs que les nôtres. Mmh. Et ça pose vraiment un problème. En tant que, on a le pire budget de l'Europe occidentale, l'Europe nous a rappelé à l'ordre à plusieurs reprises. Donc nous avons deux cas de figure et deux choix qui se proposent à nous. C'est soit nous reprenons le contrôle de la situation, soit nous laissons l'Europe, elle, décider de là où nous allons couper dans les budgets.
Oui.
Nous avons fait le choix de reprendre le contrôle nous-mêmes du budget, de prendre des décisions qui sont parfois difficiles, mais nécessaires pour faire en sorte de maintenir une trajectoire budgétaire.
Faire des économies, c'est le maître mot, Bernard Clerfailly.
Oui, donc il faut reconnaître que la situation budgétaire de la Belgique n'est pas bonne. Hein. On l'a rappelé, plusieurs organismes internationaux, la Commission européenne, l'OCDE, le Fonds monétaire international, le Bureau du plan, enfin on peut mettre la liste. Nous avons un très gros déficit parce qu'en Belgique, nous avons l'habitude de ne pas faire attention au déficit et un jour il nous rattrape. Et c'est le même problème en région bruxelloise d'ailleurs, où on a aussi laissé un peu filer le déficit. Le Covid ne nous a pas aidé, tous les niveaux de pouvoir ont été atteints par la Covid, mais en attendant, on doit prendre des mesures. Donc moi, qui suis dans l'opposition hein, par rapport à l'arrêt de je reconnais que l'intention qui est de maîtriser le déficit est absolument nécessaire et qu'évidemment, ça entraîne des mesures qui ne sont pas toutes sympathiques. Il faudra resserrer la vis à gauche, à droite. Ça. Donc, c'est évident qu'il faut prendre des mesures.
Il faut prendre des mesures.
Il faut prendre des mesures, soyez clair. Moi, écoutez, moi, vous savez que j'étais bourgmestre de Schaerbeek pendant 20 ans. Quand je suis devenu bourgmestre, on avait un déficit de 20%. Hein. Quand on avait 5 euros en caisse, on dépensait 6 euros. On n'a pas pu continuer longtemps comme cela. Et donc, on a dû faire des efforts et donc réduire des événements, limiter l'engagement de personnel. Enfin, on a fait des efforts, on a ramené la commune à l'équilibre et ça ne nous a pas empêché d'investir. Mais ici, l'Arizona frappe quand même très, 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 très fort. C'est vraiment un gouvernement très à droite, il ne s'en cache pas. Et les efforts qui sont faits sont déséquilibrés, à mon sens, à deux égards. Ils sont très déséquilibrés entre, pour faire simple, les riches et les pauvres dans ce pays. Mmh. C'est principalement les gens les plus pauvres, les chômeurs, les petits pensionnés, les gens minimexés, les gens qui sont les bas les moins salaires, qui vont payer beaucoup plus que les gens qui ont les moyens et qui ne se plaignent pas trop de mal vivre aujourd'hui en Belgique, parce qu'on vit bien en Belgique, on a quand même un bon système économique. Donc il y a un grand déséquilibre, grosso modo, entre la classe moyenne supérieure et la classe moyenne inférieure et les populations les plus pauvres. Puis il y a un grand déséquilibre régional entre les régions qui vont bien et les régions qui vont mal. La Flandre n'a pas trop à craindre des mesures d'exclusion du chômage qui vont être prises parce que le nombre de chômeurs est très faible et qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi en Flandre. Mais à Bruxelles et en Wallonie, où le taux de chômage est très élevé, où il y a moins d'emplois disponibles, moins d'emplois en pénurie, ça va faire très très mal. Et donc,
on y reviendra. Voilà. On y reviendra bien, Bernard Clerfailly. Je voudrais avoir quand même le sentiment, pour commencer, de Louis de Clipel, pardon, sur justement ces restrictions nécessaires, selon vous.
Mais donc, ce gouvernement Arizona, moi, je le qualifierais surtout d'un gouvernement ambitieux. Un gouvernement, en fait, où les partenaires de ce gouvernement se sont très vite dégagés du résultat des urnes du 9 juin dernier. En fait, on a pris les partis qui ont gagné dans le sud du pays et les partis qui ont gagné dans le nord du pays. Et très vite, en fait, il y avait une forme d'alignement des planètes pour savoir quels allaient être les partis qui allaient être travailler pour l'accord de majorité. Ça a pris un peu de temps, notamment parce que les socialistes flamands, le parti Vooruit, a voulu s'assurer qu'ils puissent s'y retrouver dans ce gouvernement. À un moment donné, ça a été difficile de savoir jusqu'où on allait pouvoir aboutir, parce que les autres partenaires, comprenant cela, ne voulaient pas perdre l'ambition qui se retrouvait au sein de cet accord de majorité. Donc nous, personnellement, on est très contents qu'on a pu aboutir, qu'on peut maintenant se mettre au travail pour répondre à toute une série d'enjeux qui se trouvent au niveau belge, des enjeux qui ont un impact assez fort sur Bruxelles. Notamment, on parle d'emploi, on parle du taux d'emploi. Et c'est vrai que M. Clerfaillet en parlait, il y a des inégalités qui se retrouvent entre les taux d'emploi, entre le nord, le centre et le sud du pays. C'est vraiment un enjeu qui est crucial pour ce gouvernement et surtout l'activation à l'emploi.
Alors, on en parle beaucoup, la limitation des allocations de chômage à 2 ans. Le gouvernement veut économiser là-dessus des milliards d'euros et supprime aussi l'interdiction du travail du dimanche, repousse l'horaire de nuit. Beaucoup de Belges s'inquiètent de cette mesure. Comment les rassurer ou plutôt mieux les informer, Madame Benani?
Il ne faut pas voir dans la limitation de l'allocation de chômage dans le temps quelque chose de négatif. Nous sommes le seul pays européen à donner des allocations ad vitam aeternam comme si c'était une situation de vie. Nous avons pour volonté, avec le gouvernement Arizona, d'émanciper les gens, les mettre au travail. Les mettre au travail au travers de différents mécanismes. Alors évidemment, au début, lorsque les gens tomberont au chômage, on a revu l'allocation de sorte à ce qu'elle soit plus importante, pour leur permettre de laisser un petit peu de temps, parce que l'allocation est extrêmement basse quand vous sortez d'un emploi, durant les 6 premiers mois. L'objectif, en mettant les gens à l'emploi, ce n'est pas uniquement de dire que nous voulons que tout le monde travaille, c'est leur donner une formation. Et à la suite de cette formation, ils seront mis à l'emploi. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme des politiques émancipatoires visant à améliorer le bien-être de la population. Parce que travailler contribue à avoir une vie sociale, contribue à rencontrer des gens et contribue également à s'émanciper socialement.
Émanciper les gens, Bernard Clerfaillet, il y a du boulot pour tout le monde bientôt?
Alors ça, c'est un objectif qu'on partage tous. Essayer d'atteindre le fameux taux d'emploi de 80%, enfin, il n'y a rien de magique, mais c'est un objectif qu'on doit se fixer. Il n'y a pratiquement aucun pays européen qui atteint ces 80%. La Flandre est déjà à 73%, Bruxelles, on n'est qu'à 68%, la Wallonie aussi, 67-68%, ça dépend un peu du trimestre. Donc c'est vrai qu'on a un effort de rattrapage à faire, parce que, soyons clairs, plus il y a de gens à l'emploi, mieux on gagne sa vie à l'emploi que de vivre d'allocation, de chômage, de remplacement ou d'autres choses. Plus il y a de gens à l'emploi, si on gagne mieux sa vie, on maîtrise mieux sa vie et moins de gens dépendent d'allocation. Donc ça réduit les dépenses publiques et cet argent peut être consacré à d'autres politiques, soit à baisser les impôts, soit à développer les crèches ou mieux financer les écoles, enfin que sais-je, toutes les dépenses publiques. Donc moi je partage absolument cet objectif de rehausser le taux d'emploi et la région bruxelloise a assez bien travaillé ces dernières années. Sous M. Gozouin qui m'a précédé comme ministre de l'Emploi et moi, ces 10 dernières années, le taux d'emploi Bruxelles a le plus progressé, il est passé de 58 à 67%, donc c'est la plus belle augmentation des 3 régions. On va dans la bonne direction, mais on reste encore un peu en retard. Moi, je partage, comme ministre de l'Emploi, je partage l'idée qu'il faut activer plus nos chercheurs d'emploi qui sont inscrits chez Actiris. J'ai essayé de secouer un peu le cocotier à mon niveau, mais bon, avec mes partenaires politiques, ça n'a pas été possible. Je voulais en tout cas non pas une interruption du chômage au bout de 2 ans, mais une obligation de formation pour tous les chercheurs d'emploi de plus d'1 an. Quand pendant 1 an, on a cherché du boulot et qu'on n'a pas trouvé, si on l'a cherché activement, qu'on n'a pas trouvé, ça veut dire soit que l'orientation professionnelle qu'on a prise n'est plus demandée sur le marché, soit peut-être que c'est une bonne orientation, mais à force d'être au chômage, on a perdu des compétences et on se fait chaque fois piquer le poste par quelqu'un d'autre qui sort des études ou qui sort directement d'un emploi. Et donc, on doit se remettre à niveau. L'obligation de formation. Alors, j'entends qu'il y a un peu ça dans la formule proposée par l'Arizona, mais ça va plus loin, ça va avec une exclusion du chômage, oui. Renvoyer les gens auprès des CPS, ils auront un peu moins d'argent, je suis pas sûr que ça les motivera plus s'il n'y a pas les moyens de la formation. Et donc, il y a une grande différence entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie, comme je disais tout à l'heure. En Flandre, il y a des pénuries d'emplois, il y a près de 50 000, 60 000 emplois en pénurie et beaucoup moins de chômeurs. À Bruxelles, et c'est l'OCDE qui le dit, c'est pas moi, à Bruxelles, pour notre stock de chercheurs d'emploi contient une très grande proportion de gens peu formés ou alors qui ont un diplôme à l'étranger. Beaucoup, oui. Mais qui n'ont pas de reconnaissance en Belgique. Son diplôme n'est pas valorisable sur le marché. Ils sont comptables avec un diplôme marocain, mais il n'est pas reconnu ici. Ils ne peuvent pas travailler comme comptables. Ou ils ont un diplôme de laborantin en Syrie, ils ne peuvent pas travailler dans un laboratoire médical en Belgique parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance. Et donc, ils sont considérés comme peu qualifiés, ils n'ont pas accès à un emploi qualifié. Et l'OCDE nous a dit, pour 10 chercheurs d'emploi peu qualifiés à Bruxelles, il n'existe qu'un seul emploi peu qualifié. On peut les activer autant qu'on veut, on peut les secouer, on peut les fouetter si vous voulez, on peut les menacer, les exclure. Il n'y en a qu'un seul qui trouvera du boulot. Les nouveaux n'en trouveront pas. Ils ne trouveront du boulot qu'à travers la formation. Et donc il faut le temps d'organiser ces formations. Et dans les métiers en pénurie à Bruxelles, il y a environ 23-24 000 emplois en pénurie actuellement à Bruxelles. Une très grande part, c'est dans le secteur médical. Ben, on ne devient pas infirmière ou médecin du jour au lendemain. Dans l'IT, la technologie, l'information, informaticien, on n'est pas informaticien en quelques jours. Il y a des métiers plus courts. Chauffeur de poids lourd, ça, on peut l'apprendre en quelques mois. Les premiers métiers de la construction, maçon de base, d'accord, mais tous les métiers de la construction, les techniciens de l'isolation, du chauffage, menuisier, tout ça, il faut des formations plus longues. Et donc, je crains que les mesures prises par l'Arizona ne donnent pas le temps à ce stock, si je peux dire, de personnes au chômage de longue durée, de reprendre des études suffisamment intéressantes pour retrouver des emplois intéressants en termes de rémunération et de profil de carrière.
Une réaction, Sophie Benani ?
L'absolue nécessité de formation s'accompagne, en fait, la suppression, j'ai envie de vous dire, la limitation du chômage dans le temps s'accompagne d'une formation. Alors évidemment, tout cela sera construit ou co-construit avec les régions, parce que l'objectif...
J'espère bien.
Non, l'objectif, et c'est bien clair, ce sera co-construit avec les régions. L'objectif n'est pas de mettre les gens à la rue, de ne pas les laisser sans le sou, c'est de les émanciper. Et comment on est émancipé, c'est qu'on doit être accompagné. Alors vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre, parfois, vous avez eu des difficultés avec Actiris à mettre en place certaines stratégies, à mettre en place
Non, pas avec Actiris, avec mes partenaires politiques au gouvernement. Parce qu'ici, en fait, on a quand même un plateau assez atypique. On a les engagés, l'EMR, qui sont la droite, entre guillemets, qui sont au gouvernement.
Nous ne sommes pas la droite, nous sommes
le centre droit. Vous avez des filles qui se placent aussi au centre. On n'a pas beaucoup d'interlocuteurs de la gauche, gauche-gauche, socialiste, écolo, PTB.
Ce sera pour la prochaine fois.
C'est pas de votre faute, hein, monsieur Tariq, je sais que vous avez invité tout le monde.
Ouais, absolument. Mais je voudrais quand même une réaction de Louis de Clipel sur ce qu'on vient de dire.
Oui, tout à fait. Mais ici, on parle d'enjeux cruciaux qui sont vraiment au centre de la politique la plus ambitieuse de cet accord de gouvernement. C'est vraiment de parler de l'emploi. Et on a illustré qu'il y a toute une série de leviers qui doivent être levés pour permettre à une meilleure situation d'emploi pour tous et pour toutes, ici à Bruxelles comme dans tout le pays. On a parlé de formation, ça tombe bien parce que c'est vraiment une matière qui concerne la région de Bruxelles-Capitale. Ici, dans l'accord de majorité du gouvernement fédéral, on en a peut-être un peu moins parlé parce que ce n'est pas une matière qui concerne directement le gouvernement fédéral. Mais nous, on a cette ambition et cette volonté à Bruxelles de pouvoir améliorer le système de la formation, peut-être de voir créer des meilleures synergies entre Bruxelles Formation et Actiris, par exemple, parce qu'on a un pôle de formation qui est une entité distincte, différente de Actiris, qui est l'agence régionale pour la mise à l'emploi. Et donc, essayer de trouver des meilleures synergies pour pouvoir amener les personnes qui en ressentent le besoin à des formations qui vont les amener à des meilleures professions. Et à côté de ça aussi, quand on parle des emplois qui se trouvent à Bruxelles, il ne faut pas oublier que la Flandre et même la Wallonie ne sont pas si loin de Bruxelles. Donc s'il y a des emplois qui peuvent intéresser les Bruxellois, ce serait dommage que les Bruxellois ne puissent pas en bénéficier.
D'où l'absolue nécessité de formation, parfois même en langue, et exactement, parfois même dans des métiers dont on a besoin.
Et ceux, donc, après 2 ans, seront exclus et vont se diriger inévitablement vers les CPAS. Et le gouvernement veut justement serrer la vis des CPAS, checker un peu ceux qui abusent des aides, les CPAS qui ne surveillent pas assez. Que répondez-vous à ceux qui estiment que, justement, cette situation va mettre encore beaucoup plus de pression sur les CPAS, en quelque sorte un goulot d'étranglement qui sera peut-être difficile à gérer?
Écoutez, c'est ce qu'on a dit quand il y avait eu la réforme du chômage avec le gouvernement Di Rupo. On avait dit que tous les CPAS seraient remplis, mais il ne s'est rien passé de tel. Donc nous avons, j'ai pas envie d'être optimiste, mais j'ai envie de me dire que la plupart des gens ont envie de trouver un boulot. Et donc, par conséquent, ils suivront des formations. Évidemment, tout cela sera organisé conjointement avec les régions. On ne pourra aboutir à cela que si on travaille de concert avec les régions. Malheureusement, la région bruxelloise n'a pas encore de gouvernement. Mais l'objectif est vraiment la mise à l'emploi. Et effectivement, les CPAS vont être financés à hauteur de 1 milliard d'euros. On va leur demander aussi de participer à cette politique. Parce que finalement, un CPAS, c'est aussi de l'aide sociale, des personnes précarisées, mais c'est aussi l'accueil de personnes qui n'ont pas nécessairement les formations nécessaires pour pouvoir accéder aux emplois. Le rôle clé des CPAS sera déterminant. S'agissant de la fraude ou des problèmes, etc., oui, il faudra être plus rigoureux dans les contrôles. Nous sommes un état de droit, il y a des règles à respecter. Respecter les règles, ça fait partie, c'est intrinsèque à ce que nous sommes. Donc oui, frauder, c'est mal, et frauder, c'est sanctionnable.
Financer, et donc mieux contrer les CPAS, Bernard Calafayi.
Non, mais je ne veux pas laisser passer que la plupart des gens qui seraient au CPS sont des fraudeurs. Il ne faut quand même faut pas exagérer. Il y a peut-être un petit pourcent, un demi-pourcent qui n'a pas tout à fait déclaré quelque chose. Et ça, c'est le rôle des services de contrôle des CPS d'aller vérifier. Enfin, on a vu un cas difficile à Anderlecht. Je sais bien que Anderlecht est un CPS qui fonctionne difficilement. Par contre, le reportage a démontré que le même journaliste venant à Skarbek s'est directement fait refouler parce qu'il n'avait pas droit à l'aide. Donc, il y a des CPS qui fonctionnent bien. Malheureusement, celui d'Anderlecht, un peu moins bien, et mérite qu'il soit peut-être encadré et un peu surveillé pour assurer les standards de fonctionnement qu'on attend de tous les CPS. Mais il ne faut pas croire qu'il sera si facile que ça pour beaucoup de gens qui sont au chômage depuis longtemps de retrouver de l'emploi. Comme je l'ai indiqué, s'il y a des métiers en pénurie, il y en a 20 000 en région bruxelloise qui réclament beaucoup de qualifications professionnelles. Il y a très peu de métiers en pénurie avec peu de qualifications. Et nous avons 90 000 chercheurs d'emploi en région bruxelloise, dont plus des deux tiers n'ont pas de qualification. Et donc, moi, je souhaite évidemment que le taux de chômage soit le plus faible possible et que tout le monde retrouve un emploi. Mais je sais que le chemin pour y arriver va durer de nombreuses années. Alors, on peut faire mieux en région bruxelloise. J'ai proposé moi-même, il y a quelque temps, qu'on puisse fusionner, je vais encore plus loin que M. de Klippel, enfin, faire fonctionner le plus possible ensemble, jusqu'à peut-être fusionner Bruxelles Formation et Actiris.
On ne vous a pas laissé faire.
Non, mais c'est pas l'ordre du jour de ce gouvernement-ci, mais ça fait partie des pistes, ce qu'on appelle l'optimisation de la région bruxelloise, le projet Optiris, qui est sur la table du gouvernement en formation à Bruxelles, parce qu'il y a une série d'administrations bruxelloises qu'on doit regrouper, simplifier, faire des économies. Par le passé, il y a 10-15 ans, on a fait un petit peu trop d'agences et de ministères différents. On doit faire des économies pour être plus efficace, et on peut l'être notamment sur l'articulation, accompagnement des chômeurs, envoi en formation. Mais ma seule crainte, c'est que la rapidité avec laquelle l'Arizona va vouloir forcer les chômeurs de longue durée à retrouver du travail en 2 ans, quelqu'un qui a 45 ans, n'a peut-être plus travaillé pendant très activement ces derniers temps, qui souhaite peut-être se réinvestir dans la technologie de l'information ou dans la construction, n'aura pas dans les 2 ans l'occasion de se former et d'accéder à un des emplois disponibles en région bruxelloise. Et il n'y en a pas assez globalement par rapport au nombre de chômeurs.
Une réaction rapidement avant la pause, lui, de Klippel.
Oui, donc M. Clair, Fahy parle quand même d'enjeux qui sont clés ici en matière d'emploi. C'est sûr qu'on ne pourra pas juste aller vers des politiques incitatives pour les chercheurs d'emploi, ce sera essentiel, mais il faut aussi améliorer les conditions de l'emploi de manière générale. Et c'est là où le gouvernement vient avec des mesures pour essayer d'améliorer la compétitivité et de faire en sorte que plus de gens puissent créer de l'emploi, que ce soit à Bruxelles ou en Belgique. Donc ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. Forcément, on ne va pas pouvoir permettre à des gens de trouver de l'emploi s'il y a une insuffisance d'emploi. Mais pour l'instant, on a plutôt un stock d'emplois en pénurie qui demande à trouver des chercheurs d'emploi plutôt que le contraire. Ici aussi, un enjeu clé, c'est qu'on va devoir faire en sorte que les chercheurs d'emploi soient accompagnés aussi. Et c'est une mesure qu'on va avoir dès qu'une personne trouvera un emploi. Ce gouvernement propose qu'il puisse avoir les indemnités de chômage pendant une durée plus longue avant qu'elle s'écoule totalement. Donc lui permettre quand même que dès qu'elle retrouve un emploi, d'être dans une situation quand même confortable pour pouvoir se lancer dans cet emploi. Une autre chose qu'on va pouvoir faire en réformant les allocations de chômage, c'est qu'on va pouvoir permettre aux personnes qui arrivent au chômage après la perte d'un emploi à bénéficier de meilleures indemnités de chômage à court terme. C'est vraiment dans l'idée initiale, le chômage, l'assurance chômage, l'idée de base, c'est vraiment de pouvoir aider quelqu'un qui perd subitement son emploi pour qu'il ne doive pas dégringoler tout de suite, se retrouver sans emploi. Et la troisième chose, c'est que quelque chose de novateur qu'on va mettre en place, c'est que maintenant, après 10 ans de carrière, les personnes qui veulent démissionner, qui veulent changer d'emploi de manière volontaire, vont pouvoir aussi bénéficier du chômage. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, qui n'existait pas par le passé et qui forçait les gens à essayer de se faire virer par leur employeur ou d'essayer de trouver un accord conventionnel de rupture.
Alors, on va marquer juste une petite pause. On se retrouve juste après pour parler notamment pension et sécurité. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, c'est Cash sur table sur Arabelle.
On retrouve nos invités, Bernard Clair Fahy, Louis de Klippel et Sophia Benani. Rebonsoir, messieurs, dames. Avant de parler des pensions, quelques mots de ces fameux 500 euros par mois. C'est la différence que l'Arizona veut atteindre dans 5 ans entre salaire brut d'une personne qui travaille et les allocations que reçoit une personne sans emploi. C'est réalisable, selon vous, techniquement parlant, Sophia Benani?
Eh bien, en tous les cas, c'est ce qui va être fait. Mmh. Dans le sens où il y aura un différentiel de 500 euros entre la personne qui travaille et la personne qui ne travaille pas. Ça, c'est la réalité, c'est ce qui va être mis en place. Et un peu plus tard, on va procéder à une augmentation salariale. Alors, il ne faut pas se mentir. On aurait voulu, d'emblée, pouvoir faire le différentiel entre la personne qui ne travaille pas et augmenter les salaires nets. Mais face à la situation catastrophique budgétaire dans laquelle se trouve le fédéral, et nous le savons tous autour de la table, nous n'avons pas pu aboutir à ça. Si nous voulions pouvoir aboutir à ça, on aurait dû couper dans des politiques sociales importantes. Et nous n'avons pas voulu le faire. Ça a été un choix politique. On a décidé de nous donner l'opportunité de pouvoir remettre le budget à flot. Mais quoi qu'il advienne, il y aura une différence nette entre la personne qui travaille et la personne qui ne travaille pas. Et il y aura une augmentation sur la fin de la législature des salaires nets pour les travailleurs.
Un incitant de 500 euros, Bernard Clafeilly, fausse bonne idée ?
Ah, moi j'ai toujours dit qu'il fallait que le travail paye et que le travail paye évidemment mieux que l'inactivité. Donc c'est quelque chose qui est, je crois, souhaitable. Et il n'y a personne, j'espère qu'il n'y a personne qui va dire le contraire sur le principe. Mais je pense que ce chiffre est un peu un slogan. D'abord parce que des économistes sérieux comme Philippe de Feit ont déjà démontré qu'aujourd'hui, même les plus bas salaires, quand on calcule le fait qu'il a un 13e mois, une allocation, une pécule vacances, etc., il gagne déjà significativement plus que celui qui vit d'allocation. Mais que le second problème, c'est que ça dépend de chacune des situations. Et la vraie difficulté, c'est la maman solo qui est au CPS et qui a son allocation de maman solo avec des enfants à charge, à qui on propose d'aller travailler, mais elle travaille comme caissière en supermarché à trois quarts temps avec un horaire flexible. Et dans ce cas-là, elle n'aura jamais les 500 euros d'écart. Ou quelqu'un qui se fait proposer un emploi dans l'Horeca avec des horaires flexibles, on ne sait pas très bien combien il va avoir. Donc la vie concrète est plus complexe que cette situation-là. Donc peut-être que pour le travailleur au revenu minimum, comparé à l'allocation sociale de base, aujourd'hui, personne isolée, je pense qu'on est déjà à quelques centaines d'euros de différence. Mais dans la vie concrète des gens, ce sera tous les petits conflits de comment vais garder mes enfants, comment traverser la ville, comment être sûr de ne pas dépendre des embouteillages quand mes gosses sortent de la crèche. Enfin, c'est ça qui fait la vie concrète des gens. Et donc, il faut vraiment que celui qui travaille continue d'être valorisé pour le travail qu'il fait, c'est important, quel que soit le chemin de vie que chacun prend.
Sophia Benani.
Mais c'est pour ça que toutes les personnes qui travaillent, et vous soulignez justement l'exemple de la maman solo, aujourd'hui, pour avoir une place en crèche, vous êtes prioritaire si vous n'avez pas d'emploi. Ça, c'est la réalité.
Non, on n'est pas prioritaire, non. Ce qui est passé, c'est que la ministre écolo des crèches...
Je ne suis pas écolo.
Non, mais je ne vous reproche pas, j'explique. La ministre écolo des crèches, Madame Linard, a supprimé la préférence qui existait auparavant pour les parents qui travaillent. Et donc maintenant, les parents qui ne travaillent pas ont autant de priorité que les parents qui travaillent. Et ça, c'est sans doute regrettable parce que ce n'est pas un incitant à ceux qui ont absolument besoin de placer les enfants en crèche pour pouvoir aller travailler. Et donc, c'est un incitant à ne pas travailler.
Oui.
Et donc il serait bon qu'en communauté française, on le corrige.
Mais justement, l'idée est quand même de travailler pour faire en sorte de récompenser. J'ai pas envie de dire récompenser, mais les gens qui travaillent doivent pouvoir, à un moment donné, trouver une place en crèche, trouver des places dans des garderies, trouver des places. Et tout ça doit être accessible. Travailler ne doit pas être sanctionné. Or, aujourd'hui, dans les politiques qui ont été pratiquées sous les gouvernements précédents, en tous les cas, de manière générale, c'est qu'on avait l'impression que travailler, c'était mal. Je ne dis pas que c'était votre cas, monsieur le ministre.
Non,
je sais très bien que vous avez fait partie de ceux qui ont mis le travail en exergue et vous avez un bon bilan. Je suis l'opposition et je vous le dis, vous avez un bon bilan.
Mais... Nos trois partis sont d'accord sur le fait qu'on doit augmenter le taux d'emploi.
Voilà.
Et que c'est en ayant plus de richesses et de gens qui travaillent qu'on rendra le pays plus prospère et plus capable d'assurer la solidarité. Et je crois aussi une chose qui nous réunit à la différence de la gauche, c'est qu'à la gauche, on pense que le nombre d'emplois, c'est comme un gâteau fermé. et quand certains ont un emploi, d'autres ne l'ont pas, hein, et qu'il faudrait partager le travail. Alors que je crois que nous pensons que plus il y a de gens qui travaillent, qui entreprennent, qui travaillent, plus la prospérité augmente, plus elle augmente, plus on dépense, plus on consomme, plus il y a d'activité économique. Et que nous pouvons faire augmenter le gâteau, entre guillemets, de la Belgique, augmenter les revenus de tout le monde, oui. À travers un soutien à l'activité économique.
Alors, les pensions, on va en parler, c'est promis, dans quelques instants.
Jusqu'à 20h, c'est Cash sur Table sur Arabelle.
Et on retrouve nos invités comme promis, Bernard Clairfaillie, Louis de Clipel, Sophia Benani, pour parler des pensions. Voilà, on y arrive. Un système des pensions actuelles qui n'est plus soutenable, déclare l'Arizona. Il cherche donc à faire des économies, les cinq parties, en s'attaquant donc aux pensions. Là encore, certains, notamment partis de gauche, crient rue dans le brancard un petit peu, Bernard Clairfaillie. C'est des acquis qu'il ne faut pas toucher.
Alors, je vais être clair avec vous. Je suis de ceux qui pensent que le système de pension que nous avons en Belgique n'est pas soutenable pour l'instant. Peut-être que si nous avions un taux d'emploi de 85%, 90%, il y aurait tellement de recettes pour l'État qu'on pourrait le faire. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, c'est mentir à ceux qui travaillent et qui, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, espèrent partir à la pension, de leur faire croire qu'ils partiront à la pension sans qu'il y ait des menaces sur leur pension. Et d'ailleurs, la Belgique est critiquée parce que les petites pensions en Belgique sont très petites. Il y a des gens qui ont des belles pensions, mais il y a des gens qui ont des trop petites pensions pour vivre. C'est insupportable. Donc, on doit mettre plus... Enfin, on doit gérer le système en mettant plus de recettes, en augmentant le taux d'emploi et en organisant autrement le système de dépenses. Et il est légitime, parce que beaucoup de pays européens l'ont fait autour de nous, d'avoir un nombre d'années effectives à l'emploi avant de pouvoir bénéficier d'une retraite, et j'espère d'une retraite majorée. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'une réforme des pensions... était nécessaire. Je n'ai pas eu le temps de lire tous les détails de ce qu'il y a dans la note Arizona. Beaucoup d'experts disent que c'était dans le sens de ce qui avait été préparé par plusieurs groupes de travail, d'experts et d'autres. Il y a quand même des petites différences, c'est qu'on va réduire ce qu'on appelle les périodes assimilées. Ça devient un peu technique, mais en fait, il y a une série de personnes qui, au courant de leur vie, n'ont pas eu l'occasion de travailler, celles qui sont au chômage, en particulier à la recherche d'emploi, à condition qu'ils sont activement à la recherche d'emploi, peut-être pas les tirs au flanc, ou les femmes au foyer, celles qui ont arrêté leur carrière pour élever les enfants, etc. Donc, toutes ces périodes assimilées à des périodes de travail qui vous donnent le droit en nombre d'années à avoir une pension vont être fortement réduites, donc ça risque de créer quelques injustices, un traitement différencié de ces publics, les femmes par rapport aux hommes, un peu généralement discriminées, ou les gens qui n'ont pas eu l'occasion de travailler par rapport aux travailleurs. Donc ça me pose question, j'attends de voir les détails, j'entends qu'il y a déjà des critiques et des gens qui pointent le problème à ce niveau-là, mais sur le fait qu'il faille un nombre d'années effectives pour mériter sa pension, je pense que tout citoyen doit le comprendre, qu'on ne peut pas vivre jusqu'à 85 ans en partant la pension à 63, alors ouais. Qu'il n'y a pas assez de gens qui contribuent.
Louis de Clipel, la fin des régimes privilégiés pour les pensions.
Oui, mais M. Clairfaillie parle vraiment d'enjeux qui concernent la situation des pensions. C'est qu'il y a une forme de responsabilité, de courage qui est nécessaire, parce que quand on voit tous les pays qui nous entourent, même l'Espagne où les socialistes sont au gouvernement, ils mettent en place des réformes pour assurer la durabilité, le fait que les pensions puissent être payées. Parce qu'à un moment donné, si on ne réforme pas le système alors qu'on vit de plus en plus longtemps, et que donc les gens touchent une pension de plus en plus longuement, forcément c'est une bonne nouvelle que les gens puissent vivre de plus en plus vieux, mais du coup il faut s'adapter par rapport aux besoins que ça va avoir sur le budget de l'État. Et donc c'est ici que cette réforme est vraiment nécessaire. On se retrouve dans des situations aussi où on veut pouvoir permettre à des gens d'arriver à la pension en ayant travaillé, donc permettre d'aller à 60 ans à la pension et pas seulement à 63 ans, à partir de 42 années de travail presté. Et vous parlez aussi des régimes spéciaux, ça aussi c'est quelque chose qui doit être revu, parce que ces régimes spéciaux, ils ont été aussi conçus à un moment où les fonctionnaires de la fonction publique, par exemple, gagnaient des salaires qui étaient quand même très différents, bien en dessous des salaires du privé. Et donc on leur disait, oui, certes, vous allez avoir un moins bon salaire, mais vous allez avoir une plus belle pension que les indépendants et que les gens du privé. Maintenant, la différence salariale est en train de se réduire, et donc à un moment donné, ces régimes spéciaux n'ont plus vraiment une raison d'être dans un système le plus juste qu'on puisse trouver.
Une réaction rapidement, Sophia Benani.
Écoutez, la Belgique a été sanctionnée dans le cadre du plan de relance par la ministre Lalieu qui avait présenté une réformette, j'ai envie de dire, de pension. Et la Belgique a été sanctionnée financièrement. On a perdu de l'argent parce que la réforme des pensions n'était pas assez ambitieuse. Aujourd'hui, on maintient la pension minimale, on maintient l'âge de la pension. On va revoir exactement la pénibilité des métiers et on va faire ça en concertation avec les secteurs. On passe de 40 à 42 ans de carrière pleine pour avoir une pension complète. Revoir le système des pensions, c'est être en lien avec la société dans laquelle nous vivons. Le système des pensions se basait sur une société d'il y a 20 ans, où on vivait moins longtemps. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons le devoir de revoir ce système qui est obsolète et de ne laisser personne sur le côté, en ce compris les femmes, les mères au foyer. Et tout cela sera pris en considération parce que ce qu'on attendra de notre ministre des pensions, c'est un plan clair, un plan défini et un plan qui ne laisse personne sur le côté. Je le précise bien.
On va enchaîner avec toute autre chose. Cette nouvelle fusillade ce matin à l'arme lourde à Anderlecht, ce qui nous amène bien évidemment au volet sécurité. Le gouvernement de Wever veut faire de la sécurité la priorité des priorités avec, je m'adresse à vous Bernard Clairfaillie, ce fameux dossier de la fusion des polices.
Mais les enjeux d'insécurité sont importants en région bruxelloise et tous les Bruxellois le savent. Et vous avez raison de rappeler ce fait divers de ce matin, une fusillade de plus. Bon, il y en a eu à Anvers, il y en a à Bruxelles, ça fait peur à tout le monde. Et ça demande des réponses adaptées et des réponses justes. Et c'est ça le problème, c'est que la réforme, la fusion des zones de police n'est pas la réponse juste. Lorsqu'il y a des mafias qui se développent sur Bruxelles avec des guerres de territoire, avec des narcotrafiquants d'échelle nationale et internationale qui agissent à Anvers, à Bruxelles, à Rotterdam, au Havre, à Lille, un peu partout, c'est du trafic international de drogue, du trafic international d'armes ou des faits de terrorisme encore récemment. Et ces problèmes d'insécurité-là sont pris en charge par la police judiciaire fédérale. Nous avons en Belgique une police intégrée à deux niveaux, une police qui travaille ensemble, mais qui a deux niveaux. Et le niveau fédéral a des missions réservées par la loi. Tout ce qui sont les grands trafics internationaux, les grandes criminalités, c'est le fédéral. Et la criminalité locale, la petite bande de jeunes dans la rue, les excès de vitesse dans les quartiers, des problèmes de mœurs dans une école, ça c'est la police locale et la présence, les contrôles domicile, l'accompagnement des quartiers, ça c'est la police locale. Je vous ai donc bien fait comprendre que fusionner les polices locales ne crée pas des moyens supplémentaires pour lutter contre la grande criminalité. C'est au niveau de la police judiciaire fédérale qu'il faut un renfort et c'est le commissaire en chef de la police fédérale, M. Jacobs, qui, l'été 2023, le rappelait en disant « J'ai besoin de plus de moyens parce que sur Bruxelles se concentre tellement de narcotrafic, de commerce d'armes, d'œuvres d'art volées et de corruption, l'affaire Qatargate, enfin, toutes ces affaires-là sont chez lui parce que Bruxelles est la grande ville de ce pays et a besoin énormément de renforts. La justice aussi à Bruxelles ne fonctionne pas assez bien. Et nos policiers ont beau arrêter des tonnes de gens. Notre police locale, elle fait le boulot. À Schaerbeek, par exemple, à la gare du Nord, entre octobre et décembre, on a arrêté 415 personnes. Environ la moitié pour des effets judiciaires, vente de drogue. L'autre moitié pour des problèmes administratifs, personnes sans papier. Qu'est-ce qu'on fait ? Judiciaire, on les renvoie au parquet, le parquet est débordé, ne sait rien faire, ces gens sont libérés. Problème de séjour illégal en Belgique, on appelle l'office étranger qui dit « j'ai pas de centre pour les accueillir, libérez-les ». Et donc la police locale, elle a fait son boulot. Elle a encore fait une opération samedi soir. Elle a arrêté 40 personnes. Et elle fait son travail. Mais c'est dans la chaîne de sécurité les autres acteurs qui ne font pas leur travail, principalement des acteurs fédéraux, comme je l'ai dit. Donc s'il n'y a pas un renfort à ce niveau-là, ce qu'on fait en fusion des zones est une mauvaise réponse parce qu'on va perdre en proximité, en réactivité, en connaissance par rapport au quartier. Et donc ce sera une très mauvaise réponse. Personne à Bruxelles, je termine avec ça, ne le demande. Aucun bourgmestre, aucun commissaire en chef. Même pas le procureur du roi qui, dans l'écho, il y a quelques jours, a indiqué qu'il ne voyait pas pourquoi il fallait fusionner les zones locales de police.
Il a dit que ce n'était pas le moment, donc ça veut dire que peut-être plus tard.
Bah, en tout cas, il a dit « j'ai pas vu un plan qui me dit que ça va amener du bien. Ni que ça fera des économies, ni que ça amènera de l'efficacité. Donc je ne sais pas d'où ça vient, c'est une demande flamande et flamingante pour retirer de l'autonomie à Bruxelles. Oui, c'est une immense sac qui s'avise et ça ne répond pas, ce n'est pas la réponse juste au vrai problème d'insécurité à Bruxelles.
– Commandement unifié, ce n'est pas la réponse juste, Sophia Benani.
Alors, si vous me demandez, moi, en qualité de bruxelloise, est-ce que je suis favorable à la fusion des zones de police ? Je vais vous dire non. Mais le fait est qu'un accord de gouvernement bah, c'est pas être toujours d'accord. Mais ce que nous avons pu négocier en contrepartie, c'est la révision de la norme KUL et le fait d'avoir beaucoup plus de moyens qui soient dirigés vers Bruxelles, de sorte que nous ayons plus de policiers, nous ayons plus de politiques sécuritaires. Parce que, comme l'a si bien dit M. Clairfailly, aujourd'hui, ce qu'on a vécu en Anderlecht ce matin, malheureusement, c'est quelque chose de récurrent en Anderlecht depuis 2-3 ans. Nous sommes dans une commune de narcotrafic, nous arrêtons les gens et ils sont libérés quelques heures plus tard. Et le problème, c'est que si la justice ne suit pas, si la justice ne met pas les moyens et ne décide pas de mener des politiques fermes, nous n'y parviendrons pas. Donc effectivement, les bourgmestres, les zones de police sont confrontées et même les policiers nous disent « Écoutez madame, on les arrête, ils sont dehors quelques heures plus tard et ça c'est plus possible. » Il faut un renforcement des moyens de la justice qui a été décidé également par l'Arizona parce que nous ne voulons plus croire et nous ne voulons plus penser que nous sommes dans un pays où l'impunité règne en maître. Et donc penser que oui, la fusion des zones de police, ça n'aurait pas été mon premier choix, mais le fait est qu'on a obtenu en contrepartie plus de policiers, une révision de la norme KUL et puis surtout le maintien de la police de proximité. Et rien, je dis bien rien, ne se fera sans l'aval des bourgmestres bruxellois.
Louis de Clépel, plus de pouvoir, plus de fermeté.
Oui, donc ici, l'enjeu, c'est qu'une fusion des zones de police n'est pas automatiquement la seule solution pour résoudre le problème. Par contre, je vais dire qu'une fusion des zones de police n'est pas forcément pas une solution pour essayer de résoudre le problème. On en parlait sur d'autres sujets juste avant, on parlait d'emploi, et M. Clairfailly même parlait que lui était à l'initiative de pouvoir fusionner Actiris et Bruxelles Formation. C'est bien pour montrer qu'une fusion intrinsèquement, ça peut amener à des synergies et une amélioration du service rendu aux citoyens. Et donc ici, c'est sûr qu'à Bruxelles, quand vous demandez l'avis des différents bourgmestres, ben eux, ils aiment bien pouvoir avoir leur autonomie communale. Quand ils gèrent bien les affaires, ils ont confiance en eux pour avoir des bonnes relations avec la zone de police. Et donc, c'est normal qu'eux, a priori, ils ont un a priori négatif par rapport à cette réforme. Mais maintenant, cette réforme, on peut la réussir aussi. On peut faire en sorte que la proximité ne soit pas perdue en cours de route. Qu'en fusionnant les zones de police, on va résoudre aussi toute une série de problèmes qu'on pouvait rencontrer sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. La gare du Midi, c'est un enjeu crucial en sécurité à Bruxelles. Elle est à cheval sur 3 zones de police. Ça rend les choses compliquées. Et c'est vrai que quand on parle du grand banditisme, la police judiciaire, elle a un rôle essentiel à jouer. Mais par contre, le grand banditisme, il ne naît pas de nulle part. Vous n'avez pas des personnes qui se réveillent un matin, qui ne faisaient absolument rien, et puis qui, du jour au lendemain, s'inscrivent dans une logique de grand banditisme dans le trafic de drogue. C'est une évolution graduelle, malheureusement, pour des jeunes qui se retrouvent avec des incidents mineurs, au fur et à mesure, à rentrer dans ces logiques-là. Et donc là, la police locale, elle a un rôle crucial à jouer en matière de prévention et en matière de lutte contre les petites incivilités pour éviter que Bruxelles soit dans un régime un peu trop de laisser-faire de la grande criminalité.
Une réaction de Bernard Clafay.
Écoutez, là où les Bruxellois, qui n'étaient pas à la table de négociation de l'Arizona, il n'y avait aucun Bruxellois à la table. Il y avait des présidents de partis flamands, des présidents de partis wallons, qui représentaient peut-être tous les francophones, mais pas de Bruxellois à la table. Là où les Bruxellois se sont fait avoir, c'est que quand il y a des fusillades à Anvers, on ne demande pas de fusionner la zone d'Anvers avec celle de Skilled ou de Wimblegame juste à côté. On demande des renforts de police judiciaire et des renforts au parquet d'Anvers. Mais quand il y a des fusillades à Bruxelles, on n'obtient pas spontanément ces renforts que vous dites avoir demandé, peut-être obtenu. On doit payer un prix qui serait la suppression de la proximité dans la police, en ne permettant pas aux bourgmestres, les vœux bourgmestres, les engagés, les bourgmestres MR, les bourgmestres socialistes, les bourgmestres défis, tous les bourgmestres disent le système actuel fonctionne très bien. Et moi, je vous indique que la police passe son temps à arrêter des tonnes de gens. C'est les autres éléments de la chaîne de sécurité qui ne fonctionnent pas bien sur Bruxelles, parce qu'il y a des raisons linguistiques et autres qui font que le parquet à Bruxelles n'a jamais été rempli de tous les fonctionnaires.
Madame Benadi n'est pas d'accord.
Non, je m'inscris en faux sur un élément, c'est que non, c'est pas parce qu'on va fusionner les zones de police que la police de proximité va être supprimée. Alors oui, toutes ces modalités vont être décidées conjointement avec les bourgmestres. Il n'y a pas de... il est noté fusion des zones de police à Bruxelles, en partenariat et en mise en place avec les bourgmestres bruxellois. L'idée est de dialoguer, de construire conjointement. Alors oui, effectivement, il y a les bourgmestres de mon parti et des bourgmestres de tous les partis confondus. Mais non, il ne faut pas dire que tout fonctionne. C'est pas vrai. La police locale fonctionne bien, mais croire que toute la police fonctionne, je suis désolé, mais non, parce que sinon on n'aurait pas des situations telles que nous avons à Anderlecht. Nous n'aurions pas des quartiers résidentiels où il y a des crèches crèches, des écoles, des lieux de culte où il y a des fusillades. On n'aurait pas des jeunes à 6h30 du matin qui sortiraient d'un métro en train de tirer à la Kalachnikov. Donc non, il y a un problème structurel de sécurité à Bruxelles. Certaines communes sont touchées, d'autres ne sont pas touchées. Alors revoir les politiques de sécurité, oui, c'est important. Et nous avons justement obtenu à cet effet une révision de la norme KUL, des moyens complémentaires pour Bruxelles. Et nous souhaitons également, parce qu'il y a un volet, et ça il ne faut pas le nier, il y a un volet justice, à partir du moment où vous les arrêtez, vous le dites vous-même, l'après-midi ils sont dehors. Les policiers sont dans un état...
Je me demande exactement pourquoi le fédéral, pendant si longtemps, n'a pas correctement financé la justice sur le territoire de
Bruxelles. Je ne sais pas, je n'étais pas au pouvoir.
Je suis très inquiet de cela.
On va enchaîner, le temps passe très très vite, si on a le temps encore deux questions. On revient à Bruxelles, la situation politique, le souverain a mis en quelque sorte un petit peu pression sur les négociateurs. La capitale, je le cite, ne doit pas devenir symbole de blocage, justement. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas, Bernard Clairfailly, la NVA ?
Aujourd'hui, vous n'avez pas eu de chance, vous n'avez pas invité ceux qui bloquent. voilà, aujourd'hui, vous avez total des gens qui veulent débloquer les choses. On a entendu le message du souverain qui a dit « Bruxelles n'est pas une impasse, Bruxelles est un carrefour », mais le carrefour est fort embouteillé pour l'instant, ça il faut quand même le reconnaître, et à Bruxelles, on sait qu'on a parfois des carrefours embouteillés. Voilà, ceux qui bloquent, c'est, pour ma part, le blocage qu'une série de partis ont émis tour à tour. Certains n'ont pas voulu de la team Haïdar dans l'équipe, d'autres ne veulent pas de la NVA dans l'équipe. C'est souvent du côté néerlandophone qu'il y a des problèmes, aussi parce que le système institutionnel bruxellois donne un poids un peu excessif aux élus et aux partenaires flamands, avec une espèce de droit de veto, droit de blocage du côté néerlandophone. On a là un grand problème du côté néerlandophone, et ça empêche les francophones, semble-t-il, de se mettre d'accord sur un projet bruxellois. Nous voudrions qu'à tout le moins les grandes formations politiques bruxelloises prennent leurs responsabilités et construisent un projet politique pour Bruxelles, et de voir ensuite les néerlandophones qui sont prêts à embrayer avec nous, parce qu'il y en a, pour construire ensuite une majorité et qu'on dépasse ce blocage. Bruxelles a besoin d'un gouvernement, même si mon parti n'en est pas, ou n'en sera pas, mais Bruxelles a besoin d'un gouvernement.
– Alors juste avant de donner la parole à Mme Benani, une réaction de Louis de Clipel.
– Oui, je crois que le constat est parfaitement partagé. C'est qu'ici, à l'heure actuelle, on est dans une situation où vraiment on se demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avancer sur la constitution d'un gouvernement. Le truc, c'est que si on n'a pas les personnes qui se retrouvent autour de la table, il y a un parti, le Parti Socialiste, qui était autour de la table, qui attendait patiemment qu'un accord se trouve au niveau néerlandophone. Et c'est vrai que vu que le résultat des élections a amené à avoir toute une série de petits partis qui soient représentés, c'était dur de trouver un équilibre du côté néerlandophone, parce que vous n'avez que 3 postes au gouvernement et il fallait à minima 4 partis pour remplir cet accord. Ils sont tombés sur un accord et malheureusement, du jour au lendemain, on a vu le Parti Socialiste quitter la table et dire que le NVA est un parti infréquentable. C'est quand même dur à entendre quand on voit que la NVA est le partenaire privilégié du Parti Socialiste flamand, Voreut, que ce soit à Anvers, que ce soit en région flamande, ou que ce soit ici, même au niveau du gouvernement fédéral. Donc, dire que la NVA est infréquentable, c'est vraiment dur, parce que ça veut dire que c'est plus important pour eux d'avoir cette espèce de position de principe qui est quand même un peu floue aussi, hein, parce qu'en 2020, Paul Magnette n'a pas hésité d'aller de nombreuses semaines discuter avec M. De Wever, pour voir un peu quel avenir institutionnel la Belgique allait avoir. Et donc, cette position de principe les empêche de venir prendre leurs responsabilités pour Bruxelles. Parce qu'ici, on ne leur demande pas de se marier avec la NVA. On ne leur demande même pas d'être d'accord surtout avec la NVA. On demande juste d'être à table, de défendre leur vision des intérêts des Bruxellois pour s'assurer que les intérêts des Bruxellois soient sauvegardés.
Madame Mélanie.
Eh bien, ce qui se passe à Bruxelles donne une image vraiment déplorable de la politique. En effet, ça fait plus de 8 mois que... des négociations sont en cours et on a bien vu que du côté flamand ça a été très compliqué. Bruxelles est ce qu'elle est, mais aujourd'hui les néerlandophones ne veulent pas se laisser dicter leur conduite par les francophones, et c'est tout à fait légitime.
Et vice-versa.
Et vice-versa. Mais le souci que nous avons autour de nous, c'est qu'aujourd'hui on veut mettre la NVA au banc. Je voudrais quand même pas rappeler quand même que, même si à Bruxelles il ne pose pas autant politiquement qu'il pèse en Flandre, ça reste le premier parti du pays. Et donc, à un moment donné, moi, mettre des oukases ou dire je ne veux pas discuter avec un tel, il n'y a pas de souci. Mais personne ne se met autour de la table, personne ne propose de solution et tout le monde reste fixé. Alors moi je voudrais quand même bien dire qu'à un moment donné, moi je ne comprends pas trop la position du Parti Socialiste et j'ai l'impression qu'il y a un peu deux PS. Il y a Paul Magnette qui va négocier il y a quelques années le confédéralisme. Hein. On parle de confédéralisme avec le Bardo Weaver. Et nous avons Ahmed Laouèche qui, lui, décide de ne pas du tout se mettre à table pour travailler à un programme. Est-ce que toutes les notes des Flamands nous ont plu ? Loin de là. Mais avant de discuter de quoi que ce soit, il faut se mettre à table avec les gens. Mmh. C'est tout.
Alors peut-être avant de nous quitter, il nous reste quelques petites minutes. D'une manière plus générale, donc c'est un nouveau coup de barre à droite en Europe, un autre pays, au Parlement européen. On parlait de la NVA, la NVA qui siège aux côtés de celui de l'italienne Giorgia Meloni, du PS polonais ou encore de Marion Maréchal. C'est clair, la Belgique change de cap et suit un peu l'effet domino.
Alors si je peux répondre là-dessus, juste pour un peu recontextualiser, il faut savoir que la NVA, après nous, ça, on regrette très fortement qu'elle fasse partie de ce groupe politique-là à l'Europe. Vous l'avez cité, il y a Giorgia Meloni, il y a, mais il faut aussi dire qu'avant, il y avait la droite conservatrice au Royaume-Uni qui était aussi dans ce parti. Et en fait, historiquement, on pense que la NVA était au sein de ce parti parce qu'avec un positionnement plutôt indépendantiste, régionaliste au niveau flamand, il ne pouvait pas se retrouver au sein du PPE. Mais quand on voit le programme et quand on voit la manière dont la NVA fait campagne en 2024, la NVA a réussi à convaincre en Flandre en disant on va surtout se concentrer sur le socio-économique et on va mettre les revendications communautaires un peu en sourdine. Ça les a réussi, ça leur a permis d'être le premier parti en Flandre, d'être sur une ligne quand même très différente que d'autres en Flandre et c'est ça aussi la NVA de Bart De Wever de 2024. À un moment donné, il ne faut pas essayer de dire que Bart De Wever c'est Giorgia Meloni. Ce n'est pas le cas. Je pense que si c'était Giorgia Meloni, on serait aussi dans une autre situation où on aurait autant de partis, et même les socialistes flamands, je le répète quand même, qui sont d'accord de former des coalitions avec eux.
Votre avis, Bernard Clairfoy ?
Moi, je pense que mes jeunes contradicteurs sont un peu naïfs quand même à l'égard de la NVA. La NVA reste la NVA et reste un parti dont l'objectif est l'autonomie de la Flandre. Et M. De Wever est un malin singe, un bon stratège. Il a compris qu'il ne réunirait pas une majorité des deux tiers pour faire une grande réforme de l'État classique, une septième réforme comme on les connaît avec des grands textes qui transfèrent des compétences, des textes légaux et des budgets. Il a compris qu'on allait le faire au nom de l'assainissement budgétaire de la Belgique. Supprimons des dépenses qui sont dans la solidarité nationale, des dépenses en matière de pension, des dépenses en matière d'emploi et donc de chômage, et renvoyons-le vers les régions. Et il obtient implicitement une forme de réforme de l'État. Il ne l'a pas dit du côté francophone, mais il l'a dit en Flandre, à Utlasenius. C'est une réforme de l'État et je renvoie des charges de sécurité sociale vers les régions les plus pauvres. Et je suis certain que dans quelques années, à la fin de son gouvernement, nous verrons M. De Wever mettre sur la table la réforme d'une série d'articles de la Constitution pour la prochaine campagne électorale dans lequel il mettra sur la table des éléments qui vont signer la fin de la Belgique.
Encore un mot, Mme Bellani ?
Non, je m'inscris complètement en faux. Responsabiliser les régions, c'est aussi ça. On a voulu un État avec des entités fédérées, on prend des décisions, on va faire en sorte de pouvoir financer ces mêmes régions pour mener ces politiques. Mais à un moment donné, vous avez raison. Bart De Wever reste le leader d'un parti séparatiste. Mais il n'aura pas de majorité des deux tiers pour pouvoir avoir de réelles réformes structurelles pour créer le séparatisme. Mais vous savez, une réforme de l'État, c'est pas plus mal. On l'a vécu pendant le Covid. Avoir autant de ministres de la Santé, ça n'a pas été évident. Et donc faire quelques réformes...
Nous étions les premiers à le dénoncer.
Pardon ?
Nous étions les premiers à le dénoncer.
Voilà. Et donc, je veux dire, à un moment donné, faire quelques réformes dans le but de rationaliser et de faire en sorte que la Belgique soit politiquement plus lisible, c'est pas mal. Il ne faut pas voir le mal partout. Ah, donc, à un moment donné, oui, il va y avoir des réformes de l'État. Et oui, peut-être qu'elles vont être positives pour la région.
Mais vous n'aurez pas dans M. De Wever un partenaire pour refédéraliser une série de matières comme la santé qu'il aurait fallu refédéraliser, comme la coopération au développement, des choses comme ça.
Alors, rendez-vous en tout cas à la fin de la législature pour tirer des bilans. Merci beaucoup Bernard Clairfoy, Louis de Clipel, Sophia Bellani pour votre
présence. Merci à vous pour votre accueil.
C'est la fin de cette émission. Excellente soirée à tous. Ouais.